Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Silence en joue, Arthur Morgan, bonjour. Ouais, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Oui, c'est ça, hein, quand on vit beaucoup plus ces derniers jours dans, une autre vie.
Il est déguisé en cow-boy, hein. Vous ne pouvez pas le voir, nous le voyons, c'est difficile.
Ouais, c'est compliqué, désolé, j'ai pas... Non, ouais, c'est peut-être psychologique à ce niveau-là.
Faut que tu lèves le pied, Erwan.
Oui, peut-être. Au programme, cette semaine, évidemment, on va parler de Red Dead Redemption 2, enfin, et on va passer toute l'émission là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour tout dire. Donc on va essayer d'être concis, d'être précis dans nos propos. Non, pas tant, mais voilà. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueurs, ma chroniqueuse aussi, favori. Camille Suard, bonjour Camille.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Super. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Marius Chapuis de Libé, bonjour Marius.
Salut.
Hello. Et puis, on va commencer par toi Patrick, avec des nouvelles de la PlayStation Mini.
Et oui, parce qu'on les aime bien, ces petites machines qu'on met sous la télé, qu'on branche en HDMI, qui permettent d'en jouer à plein de jeux, tout ça. Donc, on a enfin eu cette semaine le line-up définitif de la PlayStation Mini. On connaissait 5 titres. On rappelle, elle sort le 3 décembre, à juste un poil sous les 100 euros. Elle est vraiment à 99 et quelques. Donc 3 décembre, et on avait 5 titres. Là, on a la totale. Donc il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Alors, les bonnes surprises, donc Final Fantasy VII, on savait qu'il était là. Ce qui est bien, c'est que Resident Evil, le premier est confirmé, c'est le Director's Cut avec les cinématiques en couleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Director's Cut. Metal Gear Solid aussi, c'était pas gagné, il est dedans, le premier Metal Gear Solid. Rayman aussi, je pense que Rayman, c'était un des premiers jeux du line-up européen, puis je pense que c'est un jeu 2D, donc on en avait parlé la dernière fois, je pense que c'est des jeux qui vieillissent plutôt bien, qui passent plutôt bien l'épreuve du temps. Le line-up, il manque des choses, évidemment. Moi je suis un peu embêté qu'il n'y ait pas un Tomb Raider, notamment un Tomb Raider 2, mais j'aurais pas été contre un Tomb Raider 2 qui pour moi reste un monument de la PlayStation.
Même le 1.
Le 2, vraiment, le premier, je suis d'accord, le premier est emblématique, mais le deuxième
était le pont de Venise,
excellent.
Le son en bateau, le final dans
le manoir qui était cultissime. Oui. Donc il y est pas malheureusement. Il n'y a pas Wipeout aussi, qui, même si c'est pas un turbo vendeur, c'est quand même un des jeux qui ont fait l'image de la PlayStation. C'est vraiment bon, ils n'y sont pas. Et puis il y a des jeux un peu mineurs. Hein. Bon, je reprends la. Donc on a les 20 titres. On a du Cool Borders 2. On a du Battle Arena Tashinden. C'est quand même un des jeux du lancement qui sont, je pense, qui a plutôt mal vieilli. Hein. C'était vraiment les débuts de la 3D. On rappelle, c'est la PlayStation, c'est la rupture, c'est une console très importante qui amène vraiment les débuts des polygones. Donc certains jeux ont très très mal vieilli. On rappelle, la 3D polygonale en général, ça vieillit moins bien que la 2D qu'on a pu avoir.
Oui, puis les débuts ont été douloureux. Hein,
certains jeux passaient mieux que d'autres. Tu as un Tomb Raider, je pense qu'il passe plutôt bien l'épreuve du temps. Un Battle Arena Toshinden.
À l'époque, il n'y avait pas le deuxième stick pour contrôler la caméra.
Et non, il y avait toutes ces problématiques de caméra.
Donc en fait, dans les tests de jeu, il y avait toujours la caméra quand même.
Alors Wild Arms, on le savait, je crois qu'il était dans les premiers annoncés. On a Twisted Metal, pareil, c'est un des jeux du line-up. Bon, c'est pas un des grands jeux. Voilà, on a du Tom Clancy Rainbow Six. Je pense qu'il a vieilli aussi. Hein. C'est quand même des jeux 3D qui ont pas mal vieilli. Par contre, il y a une autre bonne chose, c'est le Révélation Persona, qui était inédit, je crois, en Europe. Donc ça, c'est vraiment un des premiers titres, voire même le premier de la saga, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir là. Donc voilà, des bonnes choses, des moins bonnes choses. Chacun se fera son idée. Moi, j'ai déjà craqué, c'est déjà fait. Donc, j'assume complètement.
C'est étonnant.
Mais oui, on en a déjà parlé. Il y a le côté affectif et compagnie. Puis bon, c'est toujours sympa de pouvoir rebrancher ces petites machines en HDMI facilement. À noter que le line-up de la version japonaise.
Ça va commencer à t'en faire beaucoup.
Oui, c'est très encombré sous mon écran de télé. Ouais. Puis je parlerai de la Neo Geo aussi, un de ces quatre. Parce que finalement, tu avais raison, j'ai fini par craquer au final.
Donc peut-être qu'on
fera une petite prise en main ici même prochainement. Et oui, je voulais voulais dire, oui, donc le line-up japonais un peu différent, avec plus de RPG, je crois qu'il y a des Ark the Lad, il y a quelques titres un peu différents en version japonaise, donc peut-être que les collectionneurs iront aussi taper du côté de l'import. Et puis on reste, dernier point sur les consoles mini, on a eu les résultats financiers de Nintendo qui a fait un point sur les ventes de consoles mini, donc mini NES, mini Super NES, et on comprend un peu pourquoi tout le monde y vient, c'est qu'ils ont vendu plus de 10 millions d'exemplaires, donc depuis le lancement de la première NES, donc ça marche très très fort, et on comprend aussi que les autres constructeurs y viennent, parce que ça fonctionne bien, et voilà.
Oui, oui, mais après pour un côté historique, archive et rejouabilité des ouais. anciens jeux, c'est intéressant.
Ouais, ouais,
après, c'est...
Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment... Moi, j'y joue. Enfin, ma NES, ma Super NES mini, j'y joue vraiment. Enfin, ah c'est ouais. des bécanes qui sont branchées. J'aime bien me relancer un Punch-Out comme ça, sur, vite fait. Enfin, je trouve qu'il y a un côté pratique. Donc,
D'accord.
Et voilà, c'est la mémoire du jeu vidéo. Puis bon, voilà. Mais là, on est en plus...
C'est la fibre consommateur aussi, hein, un petit peu, collectionneur,
puis,
tout ouais, ça.
Il y a un petit ouais, fétichisme ouais. aussi. Ouais. Quand tu vois le côté mini de la bécane. Ouais. Machin. Ah oui. Et puis bah, là, c'est les fêtes de fin d'année, on est en plein dans le moment. C'est stratégique aussi, évidemment, il ne faut pas se leurrer.
Donc, pas d'autres news pour cette semaine. On va se garder du temps pour parler de Red Dead Redemption 2. Le com des coms d'il y a deux semaines. Alors, il y a eu des bons retours hein, sur notre entretien publié la semaine dernière avec Sébastien Bénard de Motion Twin. C'était cool. Il y aura d'autres entretiens comme ça dans cette saison. Mais donc, il y a deux semaines, la plus de commentaires et notamment sur notre pré-traitement de Red Dead Redemption 2 et notamment du crunch et de l'affaire des... Ce qui était à l'époque surtout l'affaire des senteurs de Dan Houser qui a depuis été alimenté par des énormes papiers, des grosses enquêtes notamment de Kotaku, de Eurogamer et en France du Monde. Et donc ce commentaire de Oyoyo qui dit « Très étonné par ton indulgence, Erwan, sur Dan Houser. Légère impression que le hands-on de 2 heures et la fierté corporate de sortir un entretien exclusif avec le bonhomme a joué plus ou moins consciemment. Si on avait parlé de pratiques de crunch aussi abusives chez Quantic ou Kojima, j'ai le sentiment que tu aurais été un peu plus inquisiteur. » Je vois pas pourquoi Quantic et Kojima, mais bon, bref.
Arrêtons une quand même.
Non. Ok, RDR2 a l'air bien parti pour poser un nouveau jalon en termes techniques, artistiques et sur l'approche de l'open world en général. Et forcément, ça fait très envie. Maintenant, je reste extrêmement méfiant sur l'écriture de jeu. Je reste profondément écœuré par le cynisme absolu dont dégoulinait GTA V et Red Dead Redemption n'est pas exemple de bons gros clichés bien racistes, notamment dans sa peinture de la révolution mexicaine. Dan Houser est peut-être très fort pour sortir des jeux aux qualités indéniables. Ses pratiques managériales et le fond idéologique de ses œuvres me le rendent personnellement extrêmement antipathique. Alors, c'est l'occasion de ce commentaire de Oyo, même si j'ai pas eu l'impression d'être particulièrement indulgent sur ça, mais peut-être que on est passé trop rapidement sur le sujet pour pouvoir appuyer vraiment là où ça fait mal. Mais ça va être l'occasion justement de compartimenter, on va dire, un petit peu cette émission, parce que c'est vrai que c'est compliqué de mélanger les deux sujets, c'est compliqué dans... c'est même... impossible d'en ignorer un, d'ignorer ce sujet du crunch chez Rockstar en ça parlant de Red Dead Redemption 2, parce que c'est on ça ne parle que du jeu, c'est voilà, c'est pas la voilà, on ignore quand même une grosse partie du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces papiers que de Kotaku, de Eurogamer et de cette de ces révélations, Marius?
D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, oui, comme il y a une culture du crunch qui est profondément instaurée chez Rockstar, mais qu'il y a plusieurs mots en fait, que le crunch se matérialise de façon différente en fonction des studios, en tout cas d'après ce qu'on voit dans Kotaku, notamment le studio de Lincoln qui s'occupe du QA.
Ouais. Qui est le gros sujet du gros papier de Eurogamer aussi, qui est énormément de témoignages de Lincoln, et t'as pas du tout envie de travailler à Lincoln.
Voilà, où on voit que c'est vraiment un travail d'usine malsain, où les conditions de travail sont dégueulasses, où les gens sont pressurés, et juste, c'est pas une façon de traiter les employés. Et à côté de ça, dans les studios, ce qui est intéressant dans le papier de Kotaku, c'est que c'est vraiment pas un bloc, quoi. C'est pas... c'est dégueulasse, Rockstar sont des monstres, et avoir... que des témoignages dans un sens, on voit qu'il y a plusieurs types de crunch et qu'il y en a un qui est presque idiot parce qu'il ne sert même pas le jeu. C'est la culture de l'effort à tout prix. Et il s'agit
aussi.
Voilà, il faut montrer qu'on est là.
L'acte de présence.
Ou ouais, c'est une espèce de montrage de biceps ou à combien de temps tu peux, enfin, à quel point il faut bosser le week-end pour montrer qu'on est impliqué dans le jeu. Ou il s'agit de rester, de faire acte de présence pour que le boss puisse avoir l'impression que les gens sont impliqués dans le truc. Là, c'est vraiment absolument ridicule, quoi.
Ouais, et puis je pense que tout le monde s'entraîne un peu là-dedans. Après, c'est un cercle vicieux. Et comme tu dis, hein, montrer ses biceps, t'as celui qui restera le plus longtemps, celui qui fera le plus et qui montrera qu'il est vraiment dans le truc. C'est assez triste.
Ce qu'on apprend aussi, c'est que, et c'est là aussi qu'il semble que chez Rockstar, ils aient fait des efforts, entre guillemets, hein, depuis, parce qu'on entend beaucoup parler des crunchs, de la culture du crunch qui avait eu lieu sur GTA 4, sur GTA 5, sur le online de GTA 5, qui a été particulièrement violent pour énormément de studios, et qu'il y aurait eu une politique, en tout cas, de diminution de ces trucs de crunch. Sauf que quoi ? On l'a vu, et ça me rappelle notre entretien de la semaine dernière avec Sébastien Bénard, c'est que quand un Motion Twin, il décide de se protéger, finalement. Il faut se protéger activement contre le crunch. C'est pas juste de dire non, mais c'est bon, on oublie, on n'est plus dans cette culture-là, faites vos heures et tout ça. Non, il faut mettre en place des processus de surveillance, de vérification de la hiérarchie intermédiaire, qui est souvent très, 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 très coupable dans ces situations-là. C'est-à-dire, dans les témoignages qu'on a, c'est énormément cette hiérarchie intermédiaire qui va pressuriser, qui va mettre en place ces heures supplémentaires obligatoires, mettre en place chez Lincoln, il y a des trucs qui sont absolument affolants, où en fait le crunch a duré quand même un an entre octobre 2017 et la sortie du jeu, où ils étaient obligés de bosser un dimanche sur deux, c'est-à-dire que
du travail. Des heures sup non payées obligatoires.
Oui, oui.
Rien que ça, le concept est quand même assez étonnant.
Mandatory, comme ils expliquent.
On n'est pas naïf, il y a du crunch partout, dans toutes les industries, quasiment dans tous les corps de métier, j'ai envie de dire, c'est très très régulier. Il faut que ça reste un accident, il faut que ce soit, voilà, que ce soit des choses qui restent dans l'accident.
Il faut que ça lutte contre,
mais il ne faut surtout pas l'institutionnaliser. C'est là où elle risque, c'est quand ça rentre vraiment dans les codes de fonctionnement du studio, en l'occurrence.
Et puis, comme on voit Rockstar qui s'en vante presque d'avoir fait 100 heures par semaine, plusieurs semaines.
C'est dangereux, c'est là où une ligne est vraiment franchie, et encore une fois, il ne faut pas être naïf, ça arrive souvent, il faut le combattre, mais voilà, le danger, c'est d'en faire, oui, presque un étendard. Et là,
c'est horrible, dans des grosses boîte comme ça, que, enfin, oui. On s'imagine toujours un petit studio avec quelques personnes qui se tuent au travail parce qu'ils ont un projet et qu'il faut que ça avance. Mais dans des grosses boîtes comme ça, en 2018, on se dit, c'est quand même affolant.
Surtout après 8 ans d'attente pour avoir un jeu, on n'était plus à 6 mois près ou à un an près. Enfin, il y a un moment où c'est des boîtes qui ont les moyens de choisir. Ouais, leurs conditions de travail.
L'introduction du papier de Kotaku est assez sidérante là-dessus. Ce moment où l'équipe créative se dit il faudrait ajouter deux bandes noires dans les cinématiques pour appuyer le côté cinématographique. Et puis là, tout le monde se rend compte, mais ajouter deux bandes noires, c'est pas juste ajouter deux bandes noires, mettre trois lignes de code. Il faut recadrer toutes les cinématiques du jeu et on va garder la même date de sortie.
Bon, c'est pour lundi. Donc, hein.
Voilà, non, mais c'est c'est limite ça. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est intégré, c'est-à-dire que c'est intégré à cette culture. Et je rebondis sur ce que tu disais, Camille, je pense que le truc qui est capital, pourquoi est-ce qu'on parle, et tu en as parlé aussi, Patrick, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Rockstar alors que peut-être qu'il y a eu des crunchs dans d'autres jeux qui sont sortis? On n'a pas parlé du crunch de Shadow of the Tomb Raider ou de Spider-Man, s'il y en a eu.
Spider-Man n'est pas mal dans ce cas-là.
De quoi ?
D'après Jason Schreier, le Spider-Man est plutôt un modèle, a été plutôt propre.
Déjà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est parce que aussi Rockstar, c'est un symbole.
Et c'est une communication aussi, c'est de fameuses interviews.
C'est les plus gros jeux du monde, et je pense que tant que.
C'est un exemple.
C'est surtout un leader. C'est tant que Rockstar
continue d'accepter
cette culture du crunch, les boîtes en dessous, qu'est-ce qu'elles font ?
Mais surtout quand t'as les moyens d'éviter ça.
Bah oui.
Après, quand t'es une petite boîte, que t'es une boîte intermédiaire et que tu sais que t'es pas maître de ton calendrier,
et que c'est une question de survie
quand il faut bosser
absolue,
plus, moi je peux comprendre qu'il y ait recours au crunch. de façon ponctuelle, si même si c'est pas sain.
C'est un truc
c'est un truc qu'on peut.
Enfin, tu vois, des conditions
dans la presse, on a ça tout le temps. Et c'est un truc qui tient à la précarité des journalistes, des gens, et qui est difficile à éviter quand t'es précaire, que ça tienne de ta situation personnelle ou entrepreneuriale. Rockstar, la précarité, ça va, quoi.
Ça va, ils sont sereins.
Donc voilà, après voilà, dans les papiers de Kotaku et Eurogamer, bah voilà, on apprend ce qu'on savait déjà, ce qu'on se doutait, c'est voilà, les gens ont été pressurisés. Il y a 3000 personnes qui ont bossé sur Red Dead Redemption 2 sur le cours de son développement. Alors il y a une suite aux articles, ils ont quand même publié sur le site la liste de tous les contributeurs parce qu'ils n'étaient pas au générique. La culture de Rockstar aussi, c'était de ne mettre au générique des jeux que les gens qui étaient présents au moment de la sortie du jeu.
Au bouclage.
Donc là, ils ont quand même rajouté les noms sur le site officiel de Rockstar. Et voilà.
Bien, ça avance. C'est peut-être qu'il y a des choses qui vont avancer.
Ça avance. Et ce que disait Oyoyo dans les forums, dans un autre post, c'est de dire qu'il ne faut pas compter sur... les managers ne sont pas foncièrement bons et ce n'est pas une erreur de leur part de faire du crunch. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'en rendaient pas compte que ça a eu lieu. Hein, c'est parce que ça fait partie aussi de leur pratique managériale. Et c'est vrai que peut-être, et c'est que là, pour la pression populaire, médiatique, etc., qu'il y a eu vis-à-vis de cette sortie-là peut faire aussi bouger les lignes. En tout cas, on l'espère. De toute façon, maintenant, ils savent qu'ils sont sous le radar et que leur prochaine sortie sera assez surveillée à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que ça va faire bouger les lignes. Mais parlons, il faut peut-être aussi parler du jeu en lui-même, parce que c'est pas rien non plus Red Dead Redemption 2. On attendait, on savait pas ce qu'on attendait, mais le premier, c'était 2010. 8 ans plus tard, on a le droit... Au deuxième épisode, on va écouter un passage.
One more big score, we got enough money to leave. What do you think? Yeah! Nothing means more to me than this game. I would kill for it, I would happily die for it. I wish things were different. But it weren't us who changed.
Trust me, Arthur. Just one more.
And I know there's a goddamn train.
I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you.
Just you. Ah, ça va. Red Dead Redemption 2, donc sorti le 26 octobre. Je sais pas si vous y avez joué le 26. Moi, j'ai pas pu. J'ai eu le retard chronopost le plus long de l'histoire des retards chronopost. Donc, j'ai reçu le samedi matin. Mais voilà, on lance Red Dead Redemption 2. On se retrouve dans la neige. On se retrouve en haut de montagne. On découvre les premiers paysages assez inhospitaliers du jeu qui a assez rien à voir aussi avec les paysages qui ont rempli nos souvenirs de Red Dead Redemption, le premier du nom. Camille, tes premières impressions après quelques heures de jeu et surtout tes premières impressions de prise en main au moment où tu y as joué?
Alors, je l'aime de plus en plus. Et pourtant, c'était pas gagné. Déjà, je savais même pas si j'allais craquer pour Red Dead cette année. Pour plusieurs raisons, donc pour le crunch dont on a parlé, j'avais un peu l'envie de boycotter un peu le titre, mais bon, il me faisait quand même beaucoup de l'œil. Et la deuxième raison, c'est que c'est un jeu Rockstar. Alors, je suis désolée. Je suis désolée, mais Rockstar, c'est un studio que je regarde, mais toujours un peu de loin. J'ai joué un peu à d'anciens GTA, dans Vice City par exemple. Je reconnais la valeur des jeux, leur intérêt, leur côté un peu subversif, bien qu'un peu répétitif finalement au fil des titres. On a une sensation de liberté, de fun. Je salue aussi les forces de l'écriture en général, la création des univers propres, des personnages charismatiques. Je reconnais le style Rockstar parce que ça, on peut pas leur enlever. Il y a vraiment le style Rockstar et quand on joue à un jeu Rockstar, on sait qu'on joue à un jeu Rockstar. Seulement, malgré tout ça, ce n'est pas des titres qui me parlent plus que ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir le nier, mais les jeux Rockstar sont des jeux, des histoires de bonhommes écrits par des bonhommes pour des bonhommes.
C'est pas faux.
Voilà.
Il y a quelques filles dans le jeu, mais...
Ouais, ouais. Mais bon, comme on sait, hein, jeu vidéo, le mieux, c'est quand même de s'identifier. Hein. Et même si j'avoue avoir une petite partie masculine autant que féminine chez moi, je me pose toujours cette question tout au long du jeu, même si j'ai pas boudé mon plaisir. Hein. Où sont les femmes ? Elles sont toujours relayées au second, voire au troisième plan, à ranger le campement, à s'occuper de ces messieurs, à les disputer, à vendre leur corps, les réconforter, et puis il faut les sauver.
Et
aussi.
C'est complètement dans la continuité des titres Rockstar. Hein.
Quand tu joues à Odyssey, où tu choisis justement dès le début, voilà. c'est vrai que
exactement.
Ça...
Exactement. Donc les femmes sont un peu interchangeables, il faut quand même l'avouer. Et pour le moment, après 20 heures de jeu, je vois toujours... Je ne vois rien d'autre que cela dans Red Dead. Alors, j'espère que vous qui avez joué un peu plus, vous allez pouvoir me dire que j'ai tort et que je vais avoir une bonne surprise après. Surtout que, pendant l'histoire du Far West, il y en a eu des femmes. Hein, Calamity Jane, Kate Olani, Little Bitches, Laura Bouillon. Mais bon, voilà. Sinon, pour en revenir au jeu, alors au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Par contre, la claque, la neige, tout ça, c'était absolument somptueux. Mais j'étais un peu pressée par le temps. J'avais envie d'avancer dans le jeu et c'est vrai que j'ai été confrontée à beaucoup de lenteur et je me suis beaucoup énervée au début avec le gameplay parce que j'avais du mal à saisir par exemple le menu des armes. J'ai mis du temps avant de comprendre
j'ai encore du mal, je me plante de touches.
Sur R1 après R3 tout ça j'ai pas mal galéré puis même pour ramasser les objets, il faut appuyer sur, par exemple, carré. Donc, j'utilise la PS4. Carré, mais quand tu veux fouiller un corps, surtout pas
triangle.
Carré.
Ouais,
triangle. Parce que sinon tu ramasses le bonhomme. Alors, je vous explique pas les sketchs pendant les fusillades. Ça, ouais. Je me suis retrouvée avec des corps. Mais non, pousse-toi.
C'est du Benny Hill, des fois.
Ouais, ouais, c'était assez drôle. Donc, il y a quand même pas mal de choses à assimiler. Mais par contre, pendant les affrontements, c'est vraiment une partie de plaisir. En plus, la bande-son qui a tendance à s'emballer à ce moment-là, et c'est absolument puissant. Mais une fois qu'on a pris en main un petit peu cette jouabilité, qu'on s'y est fait et qu'on a établi le premier campement près de la ville de Valentine, il me semble, après, ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a mille choses à faire. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et j'aimerais revenir sur la lenteur.
On va y revenir parce que c'est un peu le point plus important au-delà
c'est
même de l'univers et de l'écosystème. C'est le cœur du jeu, c'est de lenteur. On va y revenir. Patrick, tes premières impressions.
Moi, j'adore les jeux en open world. Enfin, je le cache pas, j'adore ça. Je trouve que ce côté jeu émergent, je trouve que c'est fascinant de pouvoir modeler un peu le jeu à sa façon. Et Red Dead 2, c'est un monument. C'est un monument. Quand on le prend en main, on s'en rend compte immédiatement. Maintenant, moi, justement, en tant que... Enfin, j'aime beaucoup est-ce qu'on peut parler d'un genre avec l'open world ? En tout cas, cette famille de jeux, je trouve ça fascinant. Et moi, je suis ravi qu'il y ait différentes propositions aussi distinctes que ça. On parlait de Assassin's Creed Odyssey il y a quelques semaines, auquel je joue encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Et je trouve que Red Dead 2, il est complètement différent. On est dans la même famille.
C'est un peu l'antithèse, ouais.
C'est l'antithèse totale. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'on est dans une même grande famille de jeux, mais avec des angles d'attaque radicalement différents. Moi, ce qui m'a surpris en prenant... pour être transparent, je dois être une quinzaine d'heures, donc je suis vraiment au tout début, on va dire, une quinzaine d'heures de jeu. Moi, ce qui m'a surpris en le prenant en main, c'est le côté austère. Il y a une austérité dans les premières heures. C'est un jeu qui est visuellement... En tout cas, dans ses premières minutes, parce que tout change après, mais en tout cas, les premières heures, on va dire, sont plutôt austères visuellement. C'est-à-dire qu'on est un peu refroidi, hein, sans jeu de mots. On refroidit vite le joueur en disant, voilà, tu te calmes, tu vas suivre notre histoire déjà. On te prend par la main, tu vas suivre ça. C'est un jeu qui a une austérité dans son, tu en parlais, dans son interface, qui n'est pas forcément facile à prendre en main, etc., qui est très punitif. C'est un jeu punitif, c'est-à-dire qu'il est difficile, je trouve. Dès qu'on commence un peu à s'écarter, à vouloir expérimenter, c'est assez punitif. Et moi, c'est ce qui m'a, moi, ce qui me surprend, c'est que moi, justement, étant passionné de ce genre de jeu, je suis le premier, quand j'ai un open world en main, c'est à explorer, à faire des expériences de physique, de jouer avec les systèmes qui s'entrecroisent. Et là, mais même pas, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, je suis à 15 heures de jeu, je ne suis pas du tout dans ce questionnement des systèmes avec, pourtant, il y en a des systèmes, hein, les animaux, les ennemis, les rencontres, etc. J'ai envie de dire, je vis une aventure, c'est indiscutable. Il y a un élan dans ce jeu qui t'emporte, mais qui est d'une lenteur quand même assez importante. Il y a une force, encore une fois, il y a une puissance dans cette histoire qui est racontée, mais on a une sorte, c'est assez difficile à expliquer. On est presque dans un jeu très narratif, très cinématique, qui a une influence du cinéma qui est flagrante, mais qui finalement, moi, ne m'a pas du tout, pour l'instant, en tout cas, encouragé à explorer son univers. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans le côté narratif. C'est-à-dire qu'on vit vraiment, on est vraiment sur du cinéma interactif. On peut parler avec. Tu parlais de ces bandes noires qui apparaissent lorsqu'il y a une scène cinématique qui reprend la main.
Tu peux même provoquer la cinématique en appuyant.
Bien sûr, avec la touche.
Tu peux changer les angles et tout.
C'est marrant, lors des transports, il y a beaucoup de voyages comme ça. Mm. En tout cas, on est pour moi à l'inverse du système de parc d'attractions qu'on a en général. C'est ça pour moi un open world. Et c'est pas péjoratif. Hein. J'adore ça, moi, lorsque je lance un nouveau Assassin's Creed. J'adore avoir cette carte qui s'ouvre avec plein de trucs à aller faire, à aller piocher, à aller explorer, activer tout. J'adore ça. C'est un truc, j'adore grignoter comme ça un univers et me l'accaparer géographiquement. Pour moi, ce sont des jeux de géographie. Et là, j'ai pas eu du tout cet aspect-là. J'ai vraiment été embarqué dans le scénario et j'avais vraiment la sensation presque d'un jeu plus linéaire. Mais c'est aussi parce que je l'ai vécu comme ça, à ma façon. Et j'ai trouvé qu'on était moins porté dans l'exploration des systèmes. On vit une aventure. Enfin, on est vraiment embarqué avec des personnages, avec une lourdeur. Et je trouve que il y a un vrai parallèle entre cette lourdeur des déplacements qui est vraiment qu'on ressent clairement, surtout quand on sort de d'autres jeux beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus arcades, qui sont moins. Là, on a un réalisme des comportements de ce héros qui est quasiment. Enfin, je trouve que son comportement est en phase avec ce qu'il est. Il est plutôt rustre. Plutôt lourd, il est plutôt. Et finalement, c'est plutôt raccord, ça, c'est plutôt cohérent.
Il y a un truc sur les systèmes qui est vraiment intéressant, je trouve, parce que tu dis qu'on les. Enfin, le système n'apparaît pas, en fait.
Oui, ils sont. En fait,
on n'a plus de HUD, on a juste cette petite carte qu'on peut virer, et ça, c'est assez appréciable. Ouais. Mais surtout, en fait, le jeu te met en position d'incarner un personnage qui est déjà abouti. Mmh. Il ne te fera pas progresser dans ton personnage. Tu ne vas pas trouver des flingues qui vont révolutionner l'aventure. Tu vas gagner quelques niveaux en énergie et machin, mais tu t'en fous parce que tu ne le vois pas et ça n'a quasiment pas d'importance. Ouais. Et en fait, on est dans la négation de ce côté RPGisation du monde, du monde ouvert.
Souvent ces dernières semaines, parce que ce soit Tomb Raider, que ce soit Assassin's Creed, etc., on a beaucoup parlé ici, des composantes RPG qui apparaissent de plus en plus. Encore une fois, c'est important, je pense, pour bien aborder ce jeu. C'était déjà vrai sur le premier, c'est encore plus vrai ici. C'est pas GTA au western. Attention, c'est pas GTA qui joue au western. On n'est pas du tout dans cet univers-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus. On n'est pas chez Michael Mann. Pour moi, on n'est plus chez Sam Peckinpah, où on est sur ce western de fin de règne, on va dire, de fin d'époque. Et on n'est pas dans ce côté, encore une fois, un peu foire d'attraction qu'on peut avoir, même dans un GTA V, par exemple, où tout de suite, Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus terrien. Voilà, c'est vraiment le terme qui revenait en jouant. C'est un jeu qui est vraiment proche de la Terre, avec ce côté lent, ce côté. Mais aussi des sensations, justement. On a quasiment parfois l'impression de sentir les odeurs quand on traverse un champ. Il y a une relation à la. Comment dire, aux objets, aux matières dans ce jeu qui sont folles. Déjà, la qualité des textures visuelles qui sont, je crois, inédites. Il y a vraiment des fulgurances visuelles incroyables. Et il y a vraiment ces moments de plénitude. Mais il faut rentrer dans ces codes. Il faut, je pense qu'aimer le genre western. Le cinéma est un vrai plus, parce que le western c'est sa définition, c'est qu'on n'est pas dans du gunfight pendant 2h30 devant un bon western, Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de moments,
lenteur, de silence,
exactement, de transport, on bouge beaucoup dans les westerns, et si je pense que vraiment aimer les codes, aimer foncièrement le western est un vrai plus pour apprécier tout le tempo vraiment particulier de Red Dead 2.
Marius,
d'abord Arthur Morgan.
Ouais.
J'étais hyper dubitatif. Toutes les bandes annonces, je le trouvais atroce, ce type avec sa mâchoire carrée. Ça...
Un peu la Schwarzenegger, les faux airs de Schwarzenegger vieillissant, je trouve.
Et au bout de quelques heures, moi j'étais conquis. Je trouve le personnage super. Et au fil de l'aventure, en fait, je trouve que le jeu tient un discours sur la vieillesse, l'obsolescence et le crépuscule, puisqu'on est dans le western.
On est sur une fin.
Qui est formidable. Il y a deux grands discours, c'est l'obsolescence et le mensonge qui est partout. Que Arthur se raconte à lui-même, que Dutch se raconte à lui-même, que Dutch raconte au groupe.
Le rapport à la légende est important aussi. Le rapport à la légende dans le western, c'est important. La légende qu'on raconte, ce qu'on représente aussi. Enfin, voilà, c'est une thématique qui est très très forte aussi dans les films et qu'on retrouve bien ici.
Et la légende, elle est dans le jeu aussi, puisqu'on a John Marston qui est là, qu'on a mis sur un piédestal dans les personnages de jeux vidéo, et qui là prend un autre éclairage, vu qu'on sait ce qu'il va faire derrière, qui va régler ses comptes avec cette bande. Là, d'un coup, ce geste qui était juste, dans le premier jeu, aller buter une bande à laquelle on a appartenu, mais lointainement, comme on voit dans les westerns, prend un sens différent. Et ça, c'est quand même assez rare de voir un 2.
C'est super intéressant la façon dont ça pose ton rapport de joueur avec la narration et avec les protagonistes autour de toi. Ça, c'est vrai que c'est assez fascinant de revoir des personnages différemment, d'un autre point de vue, et de se dire, est-ce que tout ça a été calculé il y a 6 ans ? Est-ce que, ou 7 ans même aujourd'hui ?
Non, probablement pas, mais il a été écrit à partir du premier. Ils savent très bien ce qui a été écrit. Si on réécoute les quelques passages où ils évoquent Dutch et compagnie, c'est incroyable de voir à quel point toute la philosophie de Dutch est expliquée dans Red Dead 1 au détour d'un voyage. Et là, le truc apparaît de façon magistrale.
Et c'est assez marrant, surtout au début. Il y a certains dialogues ou remarques de Arthur Morgan envers John Marston qui sont de l'ordre du métadiscours de Red Dead 2 qui parle de Red Dead 1. Enfin, c'est très, très amusant là-dessus. Très bien pensé.
Sinon, cette raideur que j'ai vu reprocher par ailleurs, moi, je trouve que justement, ça fonctionne très, très bien avec ce côté.
La pesanteur,
ce côté lourd du personnage qui est.
Qui prend pas une Porsche pour traverser la rue en la route.
Qui est burinée, qui a la gueule retournée. Et voilà, le monde n'est pas fait pour être parcouru à pied. C'est fait pour être
le
à cheval.
C'est très important, le cheval. Hein.
Et il y a un rapport à l'espace qui est essentiel. Enfin, moi, le moment que j'attendais un petit peu la baffe, j'étais un peu déçu au début. D'avoir l'impression de rejouer Red Dead 1 en différent, mais de ne pas avoir de vraies surprises. Il y a un moment où on arrive dans une grande ville, pas Valentine, une ville un peu plus dense, et la mise en scène du truc est assez incroyable dans le rapport aux grands espaces. On arrive dans cette ville, normalement dans un jeu en monde ouvert, quand on voit une ville, c'est un petit coffre au trésor qu'on vient d'ouvrir, on est ravi, on n'a qu'une envie, c'est d'aller explorer. Et là, le rapport est dégueulasse. Il y a un truc viscéral de rapport au monde, où on n'a qu'une envie, c'est d'aller recourir dans les grandes plaines et de s'éloigner de cette industrialisation qui arrive.
Je parlais de Peckinpah tout à l'heure, je pensais à la Horde Sauvage. On est vraiment sur ces codes du western.
La bande de Desperado, un peu crado.
Exactement, c'est plus l'âge d'or hollywoodien avec le western idéalisé, mais ça c'était déjà propre au premier Red Dead. Mais ça c'est vraiment bien foutu, je trouve ce côté très crade, très réaliste. Et comme tu dis, je pense que ce gameplay lourd fait partie du trip. Et fait partie de ce côté roleplay qu'on doit avoir en jouant. En fait, il faut vraiment rentrer.
La lenteur et
ça, je parlais, il faut aimer le western. Il faut aimer il faut rentrer dans cette mentalité.
Par contre, autant la lenteur du personnage, moi, me gêne pas du tout. Le fait que le cheval meure et se prenne des arbres, ça me gêne pas du tout. C'est terrible. Très frustrant, c'est très énervant. Mais je trouve que ça participe de l'aventure.
Le carambolage de cheval,
c'est horrible. Oh,
oui. C'est un petit peu violent quand même.
Mais le jeu n'est pas pour autant, comme tu disais, sur des mécaniques, il est un peu foireux. Ouais. Moi, ça m'a moins gêné sur les prendre, attraper et compagnie que sur les duels. Où ça m'a... Pourtant, tu m'avais prévenu, t'avais fait quelques duels avant
le
moi.
Le R2, c'est ça, c'est la gâchette, c'est pas ça ?
Ouais, on t'apprend pendant tout le jeu en mode sang-froid à marquer ta cible pour tirer. Et là, non. Là, il faut juste tirer deux fois. Enfin, il faut appuyer sur R2. C'est complètement en contradiction avec ce qu'on t'apprend dans le reste du jeu et c'est très 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 frustrant.
Après, c'est vrai qu'il est complexe au niveau des touches. Enfin, moi, je suis à 15 heures de jeu et
c'est vraiment idiot.
Moi, je me plante encore régulièrement de touches comme toi. Quand je ramasse un truc, voilà. Ça, c'est.
Moi, alors, le truc, c'est que mon adoration pour le premier Red Dead n'est un secret pour personne. Je suis pas le seul à être dans ce cas-là et c'est vrai que je me suis tenu assez éloigné de la hype jusqu'au mois d'août. Je crois que c'est la première vidéo de gameplay pur qui m'a un peu refait tomber complètement dedans. Et les quelques heures qu'on a eu avec Marius, les 2 heures qu'on a eu avec Marius avant la sortie m'ont totalement replongé dans ces sensations et dans ce sentiment comme ça que j'avais eu il y a 8 ans. Et c'est vrai que moi, je suis retombé dedans assez immédiatement. Avec une sorte de plaisir et de gourmandise complète. Évidemment, ce dont tu as parlé, Camille, ressort plus que jamais. C'est-à-dire, on est en 2018 et avoir un jeu aussi masculino-centré, c'est un truc. Enfin,
surtout que par moment, il semble ouvrir la porte à un vrai personnage féminin.
Ouais. Ça, ouais.
Et alors moi j'ai pas fini le jeu, mais je suis quand même bien avancé et j'attends toujours quoi.
Après...
Ils ont le personnage qui est là, ils ont le truc pour
ils
créer quelque chose. Et ils le font pas vraiment.
Mais on sent qu'ils se débattent un peu avec. Ils se débattent un peu avec. Alors sans faire le vrai pas. Le vrai pas qui serait de donner un personnage jouable ou à minima un vrai personnage secondaire important.
Ouais, récurrent pendant tout le jeu.
Même bon, ce serait à minima. Même ça, ce serait un peu un
non, mais c'est
un
juste des personnages qui ont une consistance, quoi, qui sont pas là pour.
Mais on sent qu'ils se débattent parce que, en fait, il y a un vrai discours progressiste en toile de fond. Il y a une manifestation qui est.
Le truc des suffragettes, ouais.
On voit les suffragettes, même quand on en croise dans la rue. Quand on arrive à Saint-Denis, il y a des discours comme ça qu'on n'était pas habitué à voir, des discours progressistes qu'on n'était pas habitué à voir dans les productions Rockstar.
Ouais, mais ça fait sans personnage féminin, ça fait un peu.
Mais c'est vrai.
On a fait la mission pour les femmes, laissez-nous tranquilles.
On a coché. Voilà.
Exactement. Et puis surtout, la première sensation est ultra violente, c'est la première installation dans le camp. Où il y a, Karen, Tilly, Suzanne Grimshaw, Molly Oshie et tout ça, qui sont les meufs qui s'occupent de la tambouille, quoi.
Ouais,
enfin, il y a le cuisinier.
Qu'on emmène au village.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est la même, je crois, la première mission de Valentine où c'est amener les meufs au village, quoi. C'est un rapport un petit peu chelou de pas avoir franchi comme ça un pas important.
Mais même ça, à la limite, tu vois, on peut. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que la place des femmes au 19e aux États-Unis, ça doit pas être hyper reluisant. Mais ça empêche pas, même si tu cantonnes les femmes dans des rôles de pute ou de servante, d'en faire des vrais personnages.
Ouais,
d'avoir qu'elles aient des histoires un peu plus denses, ce qu'on voit là. Après quelques heures, dans le camp, c'est pas surprenant, mais les personnages qui ont le moins de consistance, c'est des femmes.
Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un point qui saute un peu à la gueule très, 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 très vite. Mais j'ai... complètement je suis complètement tombé dans le rythme et c'est le moment peut-être de parler de cette lenteur qui est finalement le cœur du gameplay de Red Dead Redemption 2 qui va au-delà du premier ça m'a amusé parce que nous évidemment en deux heures on s'était pas du tout rendu compte de cet aspect central de la lenteur
on le savait tu le retrouves très très vite tu vois que
on le retrouve très très vite mais là c'est sidérant à quel point il te force. C'est un apprenti. En fait, on désapprend à jouer. On désapprend à jouer. Les premières heures de Red Dead Redemption 2, c'est on désapprend ce qu'on connaissait des open world, de ce qu'on connaissait des jeux d'action, de ce qu'on connaissait du système de grinding qui pollue le jeu vidéo aujourd'hui. On désapprend. Le point le plus qui a été un désapprentissage ultra violent pour moi et que j'ai trouvé absolument génial, c'est le loot. Le loot, c'est dans le jeu vidéo, un ennemi mort, ce qui est sur un ennemi mort appartient au joueur. C'est une règle absolue du jeu vidéo.
C'est un cadeau.
C'est un cadeau. Ouais, c'est-à-dire, tu as buté quelqu'un, tu es propriétaire de ce qu'il a sur lui. Et dans Red Dead Redemption 2, on t'apprend très vite qu'il y a la touche triangle ou Y qui est fouiller le corps. Et effectivement, sans surprise, tu récoltes quelques cents, une montre en or ou un truc comme ça. Tu te dis quand même, dans Assassin ou dans d'autres, ou je crois que dans Assassin's Creed, tu peux débloquer un truc où tu lootes automatiquement les ennemis que tu assassines. C'est une compétence. Parce que c'est quand même pénible d'appuyer. Mais là, ça prend du temps de looter.
Ah oui.
Et puis, ça arrive très vite sur une mission où tu commences à looter et là, tu commences à te faire engueuler. Tu commences à te faire engueuler par tes coéquipiers qui disent « Non mais Arthur, tu te ramènes là, on n'a pas que ça à faire. » Et puis tu finis par perdre des choses, par voir tes amis se barrer parce que toi, tu étais resté à looter. Mais parce que le temps de loot, c'est une contrainte. Et en fait, on t'apprend à à gérer ton temps, oui. À gérer cette lenteur, ça devient un élément central du jeu, en fait.
Et à revoir tes priorités, parce que moi, à un moment, justement, mes potes sont partis après une mission, et je me suis dit, et je leur ai dit, bon, bah, moi, je reste, je vais voir un peu si je peux trouver des trucs, sauf que sur la carte, j'ai vu, oh, des chasseurs de primes sont à votre housse, et là, j'ai ramassé un truc, ça prenait du temps, je fais, oh mon Dieu, il se rapproche, et du coup, je me suis carapatée en vitesse, quoi, parce que...
Tu peux te faire accuser de meurtre aussi de gens que t'as vu tuer, que t'as looté, parce qu'ils sont là.
Mais en fait, c'est un open world où le jeu garde le contrôle. Et ça, il faut être prêt à l'accepter parce que un open world, par définition, il se moule selon tes actions. En général, c'est un terrain de jeu, donc il écoute un peu comment tu réagis et c'est toi qui t'accapare l'espace peu à peu. Encore une fois, là, non, le jeu garde le contrôle. Il te le fait bien comprendre. Il est assez punitif justement ces moments où on te balance. Tu reprends la main, tu reprends le scénario. C'est pour ça que pour moi, il est presque dans une hybridation entre un open world et quelque chose de beaucoup plus narratif finalement, avec une dynamique qui va vraiment vers l'avant, paradoxalement, malgré un tempo beaucoup plus lent.
Ouais, mais moi, c'est l'un des rares jeux où je peux encore passer 3 heures, là, moi, ça m'est arrivé une soirée, à jouer sans but. J'allais à un endroit pour ne rien faire, juste pour y aller. Et je cherchais même pas à récupérer des pots ou des machins, à essayer d'optimiser mon temps. C'était juste, je voulais retourner dans le nord, je voulais retourner voir un petit peu les montagnes et compagnie, et ça prend du temps, et c'est un plaisir. En soi, juste se promener est génial. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans Red Dead Redemption.
C'est exactement. Je pense que tu as dit un mot super important. C'est ce désapprentissage de ces mécaniques qui sont devenues la norme dans le jeu vidéo moderne. Par exemple, la mécanique d'optimisation qui est une mécanique centrale du jeu vidéo, de tous les jeux vidéo, que ce soit les blockbusters, voire même les jeux indés, on optimise. Et là, il y a un truc, on doit désapprendre ce genre de choses. Le grinding se fait automatiquement, c'est-à-dire on court, à un moment on apprend, tu vois, on est en train de faire un sprint dans la rue, dans une ville, et puis tu apprends, hop, ton énergie a gagné un point. Bah, tu t'en fous.
Tu t'en fous parce que tu vois pas la barre. Tu n'iras pas dans les menus.
Ouais, des fois, tu te demandes.
Au final,
ça veut
tu
dire
joues
quoi,
pas
en
pour
fait,
être récompensé.
Voilà.
Tu joues pas pour obtenir. Quand tu finis une mission, la plupart du temps, tu gagnes 25$ ou des misères comme ça qui ne changent absolument rien parce que l'argent, il te sert à acheter des tenues qui ne servent à rien, si ce n'est qu'à faire plaisir à toi et à dire, tiens, je prendrais bien ce petit gilet, il est quand même classe. Et voilà, c'est juste. C'est juste jouer plaisir à jouer ou pour qu'on te raconte une histoire.
C'est ce qui explique aussi les retours froids de certains joueurs à la prise lorsqu'ils l'ont pris en main. Et on peut le comprendre aussi, la campagne de com, c'était vraiment sur les gunfights, sur l'action. On te le vendait quand même comme un jeu d'action. Et c'est vrai, quand tu le prends en main, il faut être prêt aussi à aller dans cette direction de quelque chose de plus...
Je pense que de toute façon, on adhère ou on n'adhère pas du tout.
En tout cas, il y a un ticket d'entrée qui fait qu'on doit accepter cette proposition différente. C'est pour ça que je parlais. C'est génial d'avoir ça et à côté Assassin's Creed Odyssey qui est plus sur les codes habituels du... Et je trouve que c'est génial d'avoir les deux. Pour moi, ils sont complémentaires. C'est une grande famille de jeux qui, pour moi... Vraiment,
je sais pas s'ils sont complémentaires. La proposition de Rockstar se situe vraiment ailleurs. Juste pour finir sur ce truc du temps, le loot était vraiment un exemple. Hein, mais parce que je pense que c'est quelque chose où ça rentre. C'est pour faire rentrer dans le cerveau du joueur. T'es là pour être là. Tu joues pour être là.
Et pour être conquérant de ton espace aussi. C'est conquérir l'espace, conquérir les ennemis.
C'est conquérir parce que là, justement.
Pas sur Red Dead, sur Red Dead. Ouais. On parlait des autres
parce
MMO.
Tu n'achètes rien,
tu
n'es propriétaire de rien. C'est un jeu où je pense que tu peux le finir avec le flingue que tu avais au départ et basta. Et pas dans un sens performatif où regarder à quel point je joue bien. C'est que les différences sont finalement minimes.
Mais il est assez réaliste, je pense. Une forme de réalisme cinématographique, on se comprend.
Et je pense que ce système et cette cohérence absolue du temps, je pense que le système de loot est fait pour que le joueur reste au feu de camp le soir. C'est pour que le joueur choisisse, quand il est au camp de la bande de Dutch van der Linde, si c'est le soir, il y a un feu de camp qui se crée, il y a des gens qui racontent des histoires autour du feu de camp.
Il y a des fêtes,
Il y a des fêtes. Ouais, les meilleurs moments du jeu, quand même.
Ça
reste quand tu réussis à sauver quelqu'un.
Quand tu ramènes quelqu'un au camp.
Là, tu as des vraies fêtes, des vrais moments de liesse qui sont incroyables.
Enfin,
c'est
des mises en scène. C'est même pas mises en scène, ils sont là.
Dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises, il y a a pas de gros pop-up, vous avez réussi la mise. Non, tu ramènes le type et ça se fait de façon assez naturelle.
Ouais, tu marches dans le camp, les gens interagissent ou pas un peu avec
mission
toi.
Mission réussie, et... mais t'as pas un gros boum-boum, pop-up réussi, non. Machin, plus 15. Machin. Non, c'est vrai que c'est très. C'est pas un plan séquence. Pardon, c'est pas un plan séquence, mais t'as une sensation, comme Resident Evil 4, il y a très longtemps, de vivre un. Comme ça, une dynamique, comme si la caméra filmait comme ça,
tu te
quasiment.
Tu te laisses entraîner dans le truc. Et en fait, tous ces moments-là, c'est des moments privilégiés qui renforcent un peu l'idée d'appartenir à une famille, à un groupe, où tu as des liens un peu particuliers avec chacun. Chaque personnage, mis à part un peu les femmes, malheureusement, mais ils sont tous un peu charismatiques, ils ont tous une gueule en plus.
Attachant, malgré leurs défauts, malgré leur côté.
Et puis, c'est aussi bande de potes, de vieux potes, il y a des chamailleries, il y a des trucs, on se rabiboche, on va aller boire un coup.
Il y a des méfiances, c'est assez mature, c'est pas non plus c'est pas un camp de scout quoi.
Ils sont pas tous chacun ses différences, ses histoires et du coup c'est intéressant d'aller fouiller par là et de voir un peu
il y a quand même des méfiances, on est quand même au western où c'est sans pitié et même entre potes, il y a toujours une méfiance, il y a toujours un petit
tu sens qu'il y a des enflures dans la bande
tu fais attention quand même.
Ah bah Mike Abel lui c'est pas clair quand même.
Par contre, c'est vrai que moi je trouve que ce jeu il te donne vraiment cette sensation qu'il fallait pas vivre là-bas à ce moment-là quoi. C'était impitoyable. Tu sens que il y avait un côté sans pitié.
Ouais, d'un moment à l'autre, tout peut basculer. Prendre un coup de couteau dans le dos par ton pote.
Il y avait pas encore de règles. Enfin, tu sens que c'est émergent, mais que c'est encore.
Si on te demande une destination temporelle où t'installer pour tes vieux jours, tu ne choisis pas la Louisiane de la fin du 19e.
Quand tu rentres comme ça dans une baraque, parce que t'es dans un jeu vidéo quand même. Donc tu rentres dans une baraque et le mec te tire dessus. Et il a raison, parce que tu rentres comme ça. Mais tu réalises après,
c'est vrai que. Est-ce que tu fais où tu vas, parce qu'on.
Je suis pas dans un jeu vidéo habituel. Il faut quand même que je prenne en compte, c'est des paramètres qui sont plutôt bien fichus.
Et puis même à cheval, des fois tu t'avances, tu fais pas gaffe et tu renverses quelqu'un et là c'est la fin, c'est une catastrophe.
T'es poursuivi. Et là ça tourne très mal en général.
C'est souvent pas fait exprès.
Et là ça va très très vite. À côté GTA, c'est rien du tout. Là tu es vraiment très mal barré.
J'ai essayé de jouer le jeu sans payer mes primes. Il y a un moment, j'ai craqué parce que ça devenait intenable de rentrer en ville et de pouvoir accéder simplement à une mission sans se retrouver avec tous les flics.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et pour le coup, en plus, la mécanique n'est pas forcément idéale. Enfin, moi, il y a un truc un peu trop standard dans le les flics te suivent, tu quittes la ville et le truc retombe. Et, c'est très, très mécanique.
Ça,
quoi.
C'est intéressant. C'est-à-dire que. Il y a une telle. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement organique, même si c'est un mot qu'on surutilise depuis le début de cette saison. C'est un tel écosystème totalement cohérent
quand
on se retrouve face à une logique de gameplay old school comme effectivement
avec des codes qu'on connaît. On sait repérer, comme tu disais, la règle de dès qu'on s'échappe.
Ah c'est les courses de GTA.
Tu commences un peu à gratter le mécanisme.
Et là, ça devient un peu. C'est ce côté un peu déroutant, comme quand il y a des bugs. Le jeu est tellement comme ça cohérent que moi je sais qu'il y a une sauvegarde où j'ai perdu la couleur de mon cheval. Mon cheval a changé de couleur, une nouvelle sauvegarde. Ça a été un scandale pour moi.
Il est passé
de gris à marron, quoi. Enfin, et j'étais scandalisé parce que. En fait, c'est pas grave pour le jeu, ça change rien, mais plus parce que ça nuisait à cette cohérence que je chéris tellement. On va continuer à parler évidemment de Red Dead Redemption 2, mais c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy, qui est un peu spéciale cette semaine, car Jérémy était en reportage. Il va nous dire où, je crois que c'est dans une ville allemande, donc je me souviens plus le nom où il y a des trucs de jeux de société. Et il en a profité pour discuter avec certaines personnes. Salut Jérémy.
Bonjour Erwan, alors toi tu as des épisodes hors série, tu fais tes petites interviews, tu reçois des gens, etc. Et ben nous dans Silence on joue jeu de société, on fait aussi des épisodes hors série. Et donc cette semaine je suis à Essen en Allemagne, dans le plus grand salon de jeux de plateau au monde. Plus de 200 000 visiteurs pour rencontrer des auteurs, pour rencontrer des éditeurs. Et je me suis dit qu'au lieu d'interviewer des auteurs que vous ne connaissez pas, qui font des jeux que vous ne connaissez pas, on allait plutôt s'intéresser aux différents podcasts dans le domaine des jeux de plateau, pour ceux qui s'intéressent à creuser un peu le sujet, pour découvrir un petit peu le panorama des podcasts francophones. J'ai deux fois la chance d'être en présence de Cyrus, qui est le host du podcast Proxy Jeux. Alors j'ai de la chance parce qu'il m'a prêté son micro. Et la deuxième chance, c'est parce qu'il est très sympathique et que c'est un super podcast que j'écoute beaucoup. Bonjour Cyrus.
Bonjour.
Alors Cyrus, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Proxy Jeux ?
Alors Proxy Jeux, c'est un podcast qui maintenant a 8 ans. On attaque la 9e saison en fait cette année, donc c'est quand même un podcast qui maintenant est inscrit dans le paysage du monde du jeu de société. À l'origine, c'était deux personnes qui ont créé ce podcast et puis des gens se sont rajoutés petit à petit. Aujourd'hui, on est une bonne quinzaine, un peu moins de 20 en fait dans l'équipe. On fournit des formats très différents. En fait, on a une grande régularité surtout tous les mois. Donc on a un format interview où on interviewe une personnalité du monde du jeu de société dont on fait parler de son métier. Voilà, il y en a plein des métiers dans le monde du jeu de société, soit des auteurs, des éditeurs, des distributeurs et puis des gens qui sont peut-être des fois même plus cachés. On a des formats évidemment qui parlent de jeux de société. On a des gens qui chroniquent des jeux de société, donc qui les critiquent. On a un format aussi qui parle de jeux plus anciens. Donc on va mettre en avant des jeux plus anciens et on va essayer de définir ensemble qu'est-ce qui fait que ces jeux ont marqué le monde du jeu de société. Parce qu'en fait, il y a une vraie culture dans le monde du jeu de société. Il y a des jeux de société qui amènent des choses. Il y a des nouveautés de temps en temps et qui vont créer des courants. Donc comme on peut voir dans plein d'autres milieux culturels, en fait. C'est vraiment un milieu passionnant. Et voilà, donc nous, on essaie d'avoir une vision assez transverse de tout ça. Tous les éléments, on a des chroniques qui sont plutôt orientées sur de la mécanique, des chroniques qui sont plutôt orienté sur du culturel et puis d'autres chroniques qui sont un peu plus terre à terre, je dirais, qui parlent vraiment du jeu, voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans un jeu, etc., les nouveautés, l'actu, etc.
Et donc, où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Eh bien, nous, on est un podcast, donc on nous trouve sur Internet. Il faut aller sur le site proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Soit vous nous écoutez directement en ligne sur le site, soit vous nous écoutez via une application de podcast.
Merci Cyrus.
Et merci à toi, Jérémy.
Et là, je suis donc avec Fred de la Radio des Jeux. Salut Fred.
Salut, merci de m'accueillir.
C'est quoi la Radio des Jeux ?
Alors la Radio des Jeux, c'est un podcast qui se veut, on va dire, bimensuel. L'idée de l'émission, c'est d'accueillir en général deux invités et on va s'intéresser en fait à leur parcours, pourquoi ils en sont là et ce qu'ils font actuellement, c'est sur le monde du jeu de société. Et on a une orientation très très économique, donc on va vraiment connaître, essayer de comprendre les enjeux du secteur.
Très bien, et alors où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Alors on a un site internet et surtout on a un podcast, donc ça s'écoute dans les oreilles comme ici. On a des émissions très longues qui durent plutôt en général 4 heures, donc ça s'écoute en plusieurs fois. On essaie d'aller dans le fond des choses, ce qui est un peu, on va dire, notre particularité.
Bon, moi je suis un gros fan et je recommande à tous d'aller écouter la Radio des Jeux. Merci Fred.
Merci à toi.
Évidemment, si on parle de podcast, il ne faut pas oublier Playtime de Flavien. Il n'était pas avec nous aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier son podcast avec ses questions culturelles mythiques pour cerner un petit peu ses invités. Et on va donc conclure notre épisode spécial en léger différé des scènes. Je reviens avec plein de nouveaux jeux tout frais du salon. Et à partir de la prochaine semaine, on va les tester. Et je vais garder le meilleur pour vous, les auditeurs de Silence en Joue. À bientôt. Bye bye.
Bye bye Jérémy, j'ai toujours du mal à me faire à cette idée qu'il existe un podcast de 4 heures sur l'économie des jeux de plateau. C'est
bravo Jérémy, un reportage comme ça.
Non mais ouais, c'est cool, hein.
C'est chouette.
C'est cool, c'est bien. Hein. On va continuer à parler de Red Dead Redemption 2 et pour faire la transition, on va écouter un petit truc.
Listen to me, we don't want to kill any of you, but trust me, we will. Wake him up a little!
This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people.
You have got to keep faith. They will not crush us.
Alors c'est marrant, il y a deux semaines, quand j'avais passé un morceau de Red Dead Redemption 2, j'avais choisi un morceau un peu épique, un braquage de banque avec une grande musique
revu,
et tout ça.
Revu à la baisse.
Mais non, mais en fait, je me rends compte là, en réécoutant les deux morceaux que j'ai mis, à chaque fois, c'est les trucs avec les petits violons comme ça qui sont derrière. Parce que c'est finalement ça, en fait. C'est ces sons-là qu'on entend, c'est ce rythme-là qu'on vit. C'est ces dialogues, c'est les grandes tirades de Dutch van der Linde.
C'est très bavard comme jeu. On parle beaucoup pendant les transports, les trajets. Mmh. Des fois, c'est un peu lourd à lire. Je trouve que des fois, il y en a trop même.
Mais alors, cette touche cinématique qui...
Comment ?
Ils ont fait des efforts. Le fait que tu puisses passer en mode cinéma, justement, ça t'encourage.
Ouais, du coup, tu te concentres plus sur la direction.
À être tranquillement sur
moins.
Du coup, t'as juste à appuyer sur un bouton et puis tu peux suivre les dialogues. Là où dans GTA, souvent, tu pouvais faire des trucs en conduisant.
Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de dialogues.
Alors, on va un peu parler, on a un peu évoqué, un peu en vrac, je pense, tous les éléments comme ça du monde, mais il faut quand même parler parce que c'est un open world quand même, et puis c'est un open world Rockstar, et c'est un Red Dead Redemption maintenant. Maintenant qu'il y en a deux, c'est un Red Dead Redemption. Et il y a cet univers, il y a ce monde où ils ont réussi, encore une fois, à créer comme ça un truc complètement monumentale, que ce soit dans l'échelle, à tous les niveaux d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ces paysages lointains, qui sont des endroits, pour la plupart, où on peut aller. C'est ce qui est assez fou en fait. On voit quelque chose à l'horizon, et ben on va prendre son cheval pour parce qu'on peut rejoindre, même si ça prend un quart d'heure à cheval, c'est, on peut y aller. Et il y a ce qui est tout près aussi. Ce qui est tout près, où on a l'impression que tout interagit, qu'il y a ces mouches qui volent près de nous, qu'on entend, il y a les branches sur lesquelles on va passer qui se plient ou qui font que Arthur Morgan va se pencher un petit peu. Enfin, où on a l'impression qu'à chaque niveau comme ça de zoom sur le monde, tout est pensé en fait.
Mais un monde que je vais pas forcément aller farfouiller partout. C'est pas un monde que je vais aller creuser dans tous les sens. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus, hein. Mais moi, ça m'a fait un peu penser à Elle est Noire, dans le côté avoir un monde, un très beau monde autour de soi, mais que finalement, on traverse uniquement pour aller vers... faire avancer le scénario. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça.
Pas du tout, non. Pour le coup, Elle est Noire, c'était très très beau, mais effectivement, il se passait pas grand-chose.
Ah oui,
dans
c'est pour ça que je y avait.
Là, j'ai l'impression que quand tu te fixes un objectif de je vais aller dans la montagne et machin, il y a 50 trucs, 50 événements qui vont surgir, qui vont te dérouter, te détourner vers autre chose. Parce que tu entends une bonne femme hurler, parce que tu te fais attaquer sur la route, parce que tu te dis, ah quand même, j'ai jamais vu cet animal. Et si je le tuais ?
Souvent, l'open world, c'est le terrain qui est le personnage principal. Là, c'est pas l'impression que j'avais. Moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu te ramène toujours vers les personnages, vers l'écriture, vers ses relations. Enfin, pour moi, c'est vraiment le cœur du jeu.
C'est clairement
carte,
le cœur du jeu, mais après...
Qui reste un très bel objet, la carte. Mais elle est...
T'as un peu de deux jeux dans Red Dead. T'as le jeu contemplatif où il va t'encourager à ne rien faire.
Ou t'es obligé de toute façon. T'es pas obligé, mais je veux dire, quand tu tapes des longs trajets qui durent quand même un certain temps, comme tu disais tout à l'heure... T'es dans l'admiration. Ça semble même parfois forcé. T'as l'impression que les mecs ont dit bah là, il faut que le joueur en prenne plein la vue en passant comme ça.
Je trouve que le fait qu'il y ait pas que le système de fast travel soit pourrave et pas là au début, c'est très très bien. Enfin, ça participe du propos du jeu, du fait de ressentir
les distances.
Si tu dois aller quelque part, tu vas y aller. Tu vas prendre ton temps, ça va être chiant, ça va être compliqué. Des fois, tu vas perdre tes armes, ton cheval, ce qui arrivera, mais ça fait partie du truc. Quoi. Le déplacement est un.
En fait, il y a une immersion, c'est peut-être ça, c'est peut-être que je ne suis pas bien exprimé. Moi, c'est dans l'univers qui nous entoure, ce n'est pas les objectifs à aller chercher ou les trucs à aller farfouiller. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'immersion, l'intensité des décors, le rendu visuel qui est hallucinant. Moi, j'ai eu une fulgurance à un moment, j'étais dans une, je ne sais plus dans quelle ville, et ça m'a rappelé un soir de 79, où j'avais vu ce film Monde Ouest, qui avait après donné une série, et il y avait ce passage où les deux héros se retrouvaient dans une ville de western, ils étaient dans une ville simulée. Avec des robots. Et je me suis retrouvé dans ce village à un moment en jouant et j'ai scotché sur le sol en fait. J'ai regardé le sol avec les traces qui restaient des gens qui passent, qui marchent, les charrettes qui passent, qui laissent. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, mais j'y suis en fait, je suis dedans, genre, vraiment en train de vivre une aventure de western. Je suis dans le monde ouest en fait, mais derrière mon écran et dans le confort de mon salon, mais je suis en train de vivre ça. Et c'est pour ça que je parle.
C'est marrant, Dan Houser en parlait dans l'interview de Libé de ce film-là en plus.
Ah ben d'accord, ouais. Bon, peut-être qu'il. Ok. Mais oui, c'est vraiment des fulgurances de sensations, de ressenti d'odeur quasiment. Il faudrait presque avoir une carte à gratter avec des odeurs pour les avoir à tel moment du jeu. Il y a des vraies sensations comme ça, visuelles. Ça passe vraiment par des stimuli visuels à l'écran où tu te dis mais j'y suis quoi. Il y a un vrai ressenti plus que de me dire je vais aller picorer à droite à gauche des choses dans
le décor. Parce que la carte est vide en fait. Quand tu regardes la carte, t'as pas d'indication qui te dit là il y a un feu de camp, là il y a des bandits, il faut y aller pour découvrir cet accident.
J'ai pas joué depuis longtemps, j'ai l'impression que le premier était plus transparent là-dessus. Je sais plus comment c'était fait.
Et puis il y a ces éléments, il y a ces fumées qui montent dans le ciel où tu sais qu'il y a un campement, alors souvent il n'y a rien.
Des fois il y a des petites baraques abandonnées au milieu d'une montagne en haut.
Des fois ça déclenche des missions. Qui sont même pas alors parce qu'en fait t'as les missions principales qui sont très classiques dans les open world, en plus là c'est les missions jaunes, donc celle-là c'est les missions principales. T'as des missions blanches qui sont des missions un peu optionnelles qui vont se découvrir spontanées
qui apparaissent
que quand t'es près du truc, avec une zone, avec un point d'interrogation, il se passe quelque chose là. T'as les mais celles-là qui sont finalement assez scriptées et assez missions en fait. enfin en mission secondaire. T'as les missions avec les coéquipiers qui là sont aussi temporaires, elles peuvent disparaître en fonction de l'emploi du temps des gens et de ce genre de choses. T'as les missions aléatoire, c'est les braquages sur les routes, ouais. Les rencontres opportunes. Donc, t'as quand même toute une galerie comme ça de choses à faire. Et puis, t'as ces trucs, moi, qui m'ont absolument sidéré. C'est, par exemple, tu vois un feu et puis tu te retrouves avec, alors que c'était indiqué nulle part sur la map autrement que ce feu de camp, et tu te retrouves face à des mecs qui font de l'alcool et qui te demandent des ingrédients et tout ça. Alors que c'est... Et là, tu dis, il y a ce truc là, il y a cette vie, enfin,
sensation de hasard, quoi, de vie chaotique, parce que c'est le chaos, le western aussi, hein, on s'en rend compte dans le jeu, c'est que c'est le chaos, il y a des gens partout, dangereux, tout le monde est dangereux, et ça, on le ressent bien, ça, manette en main, dès qu'on arrive dans un endroit qu'on connaît pas ou qu'on défriche, on se dit, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Il y a ce côté.
Camille, c'est toi, ces effets, cet univers-là, est-ce que tu as l'impression aussi d'y être
Oui, totalement. Enfin, la gamine qui est en moi est super contente, parce que ça me... quand j'étais petite, je regardais beaucoup de western avec mon père, et c'est vrai qu'après, j'ai complètement délaissé cet univers-là. Mais là, j'ai vraiment l'impression de re-rentrer dans ces univers. Mais pour le coup, cette fois, c'est moi qui suis actrice. Et du coup, c'est ça. Il y a la place, il y a beaucoup de lenteur et de silence et d'interrogation et de hasard et de surprise. Et justement, les missions blanches, celles qui apparaissent quand on passe à côté... Là, faut se décider souvent assez vite parce que des fois, il y a une situation d'urgence et là, du coup, ça te réveille un peu sur ta petite... Tu faisais ta petite promenade tranquille et d'un seul coup, il faut que tu... Oh là, putain, il se passe quelque chose.
Une femme écrasée par
un cheval, un mec qui est coincé avec son cheval, où là, il faut vite se dépêcher.
Qui a été piqué par un serpent, si imagine,
aussi.
Qui a été blessé.
J'ai mordu pour aspirer le venin.
C'est aussi, ce truc-là.
J'aime bien parce qu'après, il dit, ça restera entre nous. Il y a beaucoup d'humour aussi.
Et tu peux avoir un suivi, tu peux avoir des choses qui se passent.
Tu peux les retrouver après. En ville pour voir.
J'ai même vu un bûcheron qui s'est fait écraser par un arbre. Ouais. C'est un. Il y a des trucs comme
c'est la vie de tous les jours. En fait,
on a vraiment l'impression d'être dans la vraie vie. Enfin,
ouais, c'est vraiment
ancré. Il y a quelque chose vraiment de.
Ancré
qui t'attend pas non plus. Quoi, en
un
fait.
Réalisme. Le quotidien, et du coup, parfois, le quotidien, il n'est pas rempli de plein de choses. On n'est pas dans une exubérance d'action.
Il y en a beaucoup
qui
sont pleins, justement, des espaces vides et tout, mais...
C'est le western, ça.
C'est le western. Les grands espaces, c'est l'Amérique, c'est...
Si tu mets trop...
C'est pas tellement vide, c'est lent, en fait. Le jeu est très double, quoi. Il y a des moments très, très, très lents, très contemplatifs, et d'autres où on se prend des accélérations dans la tronche qui semblent complètement nous échapper
en fait,
et ça a des conséquences complètement dingues.
On a toujours l'impression qu'on est tranquille, mais il faut toujours garder un œil parce que tout peut arriver en fait.
Et je trouve que le jeu, et c'est là où tout prend une cohérence en tout cas, j'espère être très loin de la fin. À chaque fois qu'il y a des changements de camp, parce que la bande. À chaque fois je suis dérouté, je dis ah, mais non, j'avais tellement de choses à faire laissez-moi dans mon ancien camp. Mais j'ai l'impression que dans cette cohérence absolue de, je sais pas, on peut appeler ça finalement aussi du gameplay, c'est le gameplay de la lenteur. En fait, je trouve que le jeu récompense, mais beaucoup, beaucoup. Les joueurs, enfin, le fait d'accepter cette lenteur.
Ah ouais. Quand tu rentres dans
C'est une partie
récompensée, parce que justement, moi, je trouve que le jeu est formidable parce qu'il ne récompense pas.
Non, mais il récompense. Il récompense parce qu'une fois, par le plaisir, par les découvertes, par les émotions, en fait.
Sauf que voilà, c'est ça, la récompense, c'est plutôt les dialogues, avancer dans tes relations, ces choses-là. C'est plutôt ça.
Du coup, ça pose la question, est-ce que Red Dead 2 est un jeu mainstream? Est-ce que c'est un jeu qu'on peut vraiment adresser à tout le monde?
Parce que
il faut quand même, comme tu disais, hein, il faut passer ce cap.
Il faut accepter
beaucoup de choses. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, une fois qu'on rentre dedans, on apprécie ces trajets qui sont plutôt longs, ces moments où il ne se passe pas grand-chose. Mais il faut passer ça. Du coup, est-ce que tous les joueurs peuvent y trouver leur compte?
Alors évidemment, on va prendre des antithèses. Prenons un joueur de Fortnite qui débarque dans Red Dead 2. Je pense qu'ils ont pensé à ça quand je parlais tout à l'heure de l'apprentissage, que le loot n'est pas automatique, que ce genre de choses. Il y a tout un processus de désapprentissage dans Red Dead 2. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui va jouer 10 heures à Red Dead Redemption 2, il va être obligé d'accepter cette lenteur.
Bah, il faut avoir aussi envie de d'écouter une histoire, quoi.
Ouais, ouais, bah, et c'est, il faut comprendre que c'est un jeu narratif
très 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 fort.
Tu reviens toujours à l'histoire.
Vraiment, ouais, voilà, qui a une puissance émotionnelle.
T'es pas laissé en jachère comme ça dans un open world.
Si t'apportes aucun intérêt, enfin aucun intérêt,
tu perds.
Oui. Moi, j'ai
tu
joué,
traverses le jeu en perdant la moitié du truc, quoi.
Je jouais et il y avait mon neveu de 12 ans à côté de moi qui me disait « Mais tata, c'est chiant ton jeu, il se passe rien, c'est long. Pourquoi, c'est quoi les cow-boys là? Pourquoi ils se battent pas? Et qu'est-ce que tu t'ennuies ou... ?» Bah non, en fait, c'est...
Attends, je vais attraper un petit lapin.
Ouais. Non, mais la chasse.
Ah, peut-être pas devant le neveu le lapin, parce que c'est trash parfois. Les...
Ah oui, j'ai dépecé une biche. Ah,
mais les animaux, choqués, on pourrait faire une émission sur les animaux dans Red Dead 2. C'est terrible.
C'est incroyable, c'est réaliste. J'ai dépecé un
ours. Ah, mais c'est horrible, il meurt pas tout de suite et tout. C'est horrible.
Ouais.
Horrible. Il y a des
puis
scènes,
je suis végétarienne, donc je ne les explique pas.
Ben, où tu peux le devenir après le jeu, je pense. Hein,
oui.
C'est vrai que c'est trash quand même.
Non, mais oui,
c'est tellement réaliste.
C'est western.
Mais je pense que voilà, tout ce jeu est fait pour qu'on apprécie une conversation sur un bateau en train de faire une partie de pêche, par exemple, ouais, qui sont où là, juste parler, être sur un bateau, faire une partie de pêche, ça devient un grand moment.
Ouais.
Et c'est fou quand même qu'ils ont ils aient réussi à créer comme ça ce rythme propre. Et c'est vrai que sur ce que tu disais que c'est pas un GTA, moi j'avais toujours été étonné de voir des gens qui jouaient à GTA 4. Qui est quand même pour moi presque le Red Dead Redemption 2 est presque un héritier de GTA 4 sur certains points, notamment narratif et ce genre de choses, de prendre aussi à contre-pied, c'est-à-dire le migrant qui arrive à New York sur le discours et ce genre de choses, et de voir les gens qui jouaient à GTA 4 d'une manière totalement décomplexée, à écraser les gens, enfin qui jouaient à un GTA classique. C'est vrai que là il n'y a pas cette proposition alternative, c'est-à-dire que soit tu rentres dans la proposition principale de Rockstar, c'est un jeu narratif, c'est un jeu.
T'as des cheat codes quand
tu
même.
Tu te prends une claque.
Dans Red Dead 2.
Ouais, t'as des cheat codes que tu trouves dans les journaux.
Ah oui.
T'achètes les journaux et dans les pages antérieures, t'as un petit cheat code que tu peux rentrer et après ça te donne munitions illimitées ou machin.
Ah oui,
d'accord.
Mais là, c'est vraiment l'approche genre je vais en ville, je bute tout le monde et je vois combien de temps je peux tenir. Moi, je l'ai pas fait parce que je suis vraiment en mode roleplay comme un malade.
Je même pas.
Moi, je me suis retrouvée dans truc, une sale situation où j'ai dû tuer presque toute la ville à cause d'un copain.
Avec les témoins. Ouais,
ce passage est atroce.
C'est pas en contradiction avec ton personnage.
Non.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai plus de problèmes avec l'idée d'essayer de jouer le personnage de façon gentille et extrêmement douce parce que c'est quand même un brigand et une bande de salopards, donc du coup j'essaye de le faire plutôt petite balle dans la tête, dans le dos, voilà, c'est pas très propre,
normal,
mais
du roleplay quoi, tu es en plein roleplay, tu suis ce que ton personnage fait.
Oui, puis tu choisis aussi un peu, enfin t'as des choix moraux quand même à faire un petit peu, tu choisis d'aider ou de faire vraiment ton gros salaire.
Moi j'ai pesté un moment, alors je ne suis pas contre les trajets à cheval, je trouve qu'ils sont agréables, il y a des vraies sensations à l'écran. Alors moi, je me suis retrouvé sur des, je sais plus quelle mission où j'ai perdu pendant, je crois, une attaque de train. Et en fait, la sauvegarde était avant le trajet à cheval. Il avait fallu que je me refasse une fois ou deux comme
tu
ça.
Tu as recommencé la mission depuis le début. Tu vois.
Et
parce que moi, au début, je me suis trompée. J'ai mis recommencer la mission au lieu de recommencer à la sauvegarde.
Alors, faut peut-être faire
sauvegarde.
Bien attention à ce qu'on enclenche.
Ah bah, je l'ai fait une fois, je l'ai pas recommencé.
D'accord,
hein.
Bah, c'était pour ça alors. Mais oui, alors dans ce cas-là, faites bien attention lorsque une mission se passe mal. Donc à revenir au checkpoint et pas au début de la mission.
Voilà, c'est ça.
Parce que je m'étais retapé mais 20 minutes de avec les des discours qui reprennent. Bon,
et puis c'est assez rigolo parce qu'ils ont quand même continué à mettre... Alors moi, je suis très curieux, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça parce qu'il y a tous ces défis qui sont absolument innombrables. Et en fait, les défis, c'est des cadeaux aux joueurs classiques, j'ai l'impression. Enfin, à ceux qui ont envie de les complétistes. Il y a quand même un côté complétiste dans Red Dead 2 qui est...
C'est dur parce que avoir des peaux en parfait état... Ah ouais, non, mais comme ça,
choper trois peaux de lapin en parfait état, vas-y, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a ce côté complétiste où autant dans Red Dead 1, ça faisait partie de l'histoire, où... mais là, j'ai pas le temps d'aller cueillir des fleurs.
Tu n'auras pas la tenue d'ours légendaire.
Non, mais je me rappelle de Red Dead 1, j'avais arrêté le scénario principal quelques missions avant la fin. Je sentais la fin venir et j'avais dit, j'arrête tout, je vais cueillir des fleurs dans les montagnes et tuer des ours et ce genre de choses. Je ne sais pas si j'aurais ce truc de chercher les trésors.
Le jeu est beaucoup moins tourné là-dessus. Hein. Vraiment.
Oui, mais il y a beaucoup de contenu quand même.
Il y a beaucoup de contenu. Moi, c'est ce que je vous disais. J'ai
pas eu l'envie pour l'instant. Je suis à 15h, j'ai pas eu l'envie d'aller creuser tout ça.
Mais il y a toujours des trucs, genre les missions principales où t'as des médailles de bronze, d'argent et d'or. Je me prends toujours des médailles de bronze parce que je sais jamais à quoi. Ah bon, il fallait tuer 7 personnes avec une balle dans la tête, ce genre de choses. Mais bon, enfin bref. Mais finalement, tout
ce qui fait pas, enfin ce qui vient presque en contradiction avec le jeu.
Mais c'est ça, c'est ce que je dis.
Ça, c'est quand tu rejoues le jeu que t'as envie de le lessiver, de le platiner. Mais tu rentres dans une autre pratique du jeu vidéo quand tu veux platiner un truc.
Ouais, t'es tellement porté par l'histoire de toute façon que tu avances, quoi. Enfin, tu vas pas aller.
Et ça marche, hein, que t'as envie d'avoir la suite de l'histoire, ça c'est clair.
Marius.
Sans trop en dévoiler, il y a quand même un truc assez surprenant. Enfin, le jeu est vraiment gonflé. Parce que je sais pas à combien d'heures je suis, mais je suis assez loin dans le jeu.
Une quarantaine.
Je pensais avoir à peu près saisi le truc. Et il y a un retournement de situation complètement dingue à un moment. Et
que personne qui autre, fait, moi je genre
qui
je
fait,
dois
qui
pas
fait, en qui fait sortir du Red Dead 1 qu'on connaît, quoi.
Ah oui.
On explore un autre truc qui est, alors je veux pas non plus le sur-hyper parce que j'y ai joué que 2 heures après ou même pas 1 heure et ça se trouve je vais être déçu, mais en tout cas ils essayent un truc, quoi. Et ça, c'est assez plaisant. Enfin, d'être déstabilisé très loin dans le jeu,
ouais. Non, mais
et d'arriver sur un territoire où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, quoi.
Tardivement.
Oui, non, mais ça, t'as hypé quand même un petit peu. Hein.
Oui, non, voilà, on n'attendait pas trop non plus, parce que c'est pas.
Une invasion alien,
oui,
qu'est-ce qui se passe
non, mais
en tout cas, il y a un vrai point plus tard dans le jeu. Donc, ça rejoint ce qu'on disait aussi, la récompense, mais en s'investissant longtemps.
Non, mais puis c'est une récompense de situation, voilà, c'est pas une récompense de jeu, c'est pas des récompenses en level, en points d'XP, en gold, en machin, c'est une récompense, moi je trouve que c'est des récompenses, enfin la première fois où j'ai appuyé sur la touche chanter de Arthur Morgan, il chante faux, il sait pas les paroles, il connaît pas les paroles, il fait comme tout le monde.
Oui, bah ouais, j'ai fait,
il connaît pas les paroles, tu sais, il fait comme tout le monde quand on connaît pas les paroles. Et t'es là, mais enfin, c'est même pas que c'est pas une blague. T'es là à profiter du moment, à profiter de l'instant, à profiter de cette ambiance avec les 23 personnages du camp que tu finis par connaître par leur prenom. Ça c'est fou. Enfin, en quelques heures, tu finis par connaître Dutch, Bill, Javier, enfin Lenny, enfin John, évidemment.
Ce traître de John.
Et le ciel est magnifique. Je sais pas si vous, la nuit, il y a des teintes
les lumières
qui sont artificielles, hein, on sent que ça a été travaillé, mais c'est magnifique. C'est il y a des moments de...
Les rayons de la lune qui passent à travers les arbres dans la montagne enneigée. J'ai eu envie de faire 8000 captures d'écran.
J'en ai fait plein de captures à
ce moment-là. Il y a des passages qui sont absolument fous. On pourrait comme ça s'étendre encore des heures sur...
Il y a la fin.
Hein?
Il y a la fin qui va aussi jouer parce que
la fin
le
va aussi
premier
jouer.
Red Dead est quand même
oui, c'est vrai
resté
qu'il se...
en mémoire
ouais.
pour sa fin
c'est
qui
vrai,
est particulièrement culottée.
C'est vrai.
C'est la première chose que tu as dit quand on a été testé le jeu, c'est à la fin qu'est-ce qui se passe, il meurt aussi. Et voilà. Enfin non, mais
ouais,
on attend de voir ce qui va se passer pour voir si c'est aussi à la hauteur.
Et là, il y a du multi qui arrive. C'est quoi? C'est le mois prochain, c'est ça?
Ouais,
on ne sait pas ce que ça va donner exactement. On ne sait pas trop. Ça va être comme le premier, grosso modo, non? C'est des...
Je pense qu'ils vont le travailler énormément. Hein. La machine à sous de GTA V s'est complètement emballée avec le multi avec GTA Online. Donc là, pour le coup, on sait très bien qu'ils vont beaucoup plus appuyer le online de Red Dead. En plus, avec les chiffres de vente qui sont enclenchés d'une manière très positive, ils vont énormément appuyer le online de Red Dead parce que c'est aussi une cash machine. Ils ont découvert ça.
C'est peut-être là que les joueurs qui sont déçus par la langue.
Ils vont lui donner une autre.
Ils auront peut-être leur plaisir, quoi.
Tu as raison.
À buter des gens dans tous les sens.
Exact.
Ouais. On aura l'occasion de reparler.
Peut-être qu'on reviendra sur le multi.
Bah oui, très probablement. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de votre expérience. Si vous avez autre chose à rajouter, non, des choses, non. Peut-être j'ai oublié des trucs, hein, mais on a forcément oublié des trucs. C'était Red Dead Redemption 2. Et la question.
Des chevaux qui sont importants, les chevaux.
Oui,
ouais,
oui.
On a parlé.
Le cheval. Si j'ai tué des enfants, j'étais choqué.
Ah bon?
Non.
Alors c'est des ados, mais...
C'est vrai qu'il y a des enfants, d'accord.
Il y en a très peu. Et
c'est un tabou, ça, dans le... Ah ouais.
Pas loin.
Pas loin. Ah ouais.
Là, t'es à un âge un peu limite où tu te dis...
D'accord.
Quand même.
Ah ouais. Moi, je vois...
J'étais où, moi, hein, j'avais pas le choix.
Merci de le préciser, quand même. et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Camille.
Alors en ce moment, j'ai une passion, c'est d'offrir le livre « Sorcière, l'impuissance invaincue des femmes » de Mona Chollet aux éditions Zone à mes amis.
Parce que tu as déjà offert Beauté Fatale, t'as
Non,
déjà offert...
pas encore. Alors je l'ai dévoré et j'estime que tout le monde doit le lire, c'est très important. Donc Mona Chollet, elle est journaliste au Monde Diplomatique. Elle avait déjà sorti, du coup, il y a quelques années, d'autres manifestes féministes comme Beauté Fatale, justement. Et avec Sorcières, donc, elle nous propose de revenir sur l'histoire des chasses aux sorcières pour nous raconter comment en réalité il s'agissait de chasses aux femmes, comment la sorcière a été nourrie de fantasmes, notamment d'hommes, qui ont peur de la femme indépendante, savante, guérisseuse, libre. Et du coup, elle nous parle des origines de ce génocide et comment la sorcière ou la femme indépendante, qui ne répond pas à ce qu'on attend d'elle dans notre société, souffre encore aujourd'hui de mauvaise réputation. C'est bien documenté, ça aborde plein de sujets, il y a beaucoup de citations et s'est mêlé à des témoignages variés et ses propres expériences personnelles de l'autrice. Et donc, c'est un livre très riche et aussi très honnête, je
trouve.
C'est
vrai que les sorcières, c'est quand même un beau territoire pour les femmes, quoi. Entre
le pouvoir.
Mona Chollet, Julie Michelet, Émile Ferris, oui. ou même le Belladonna en animation japonaise. Il y a vraiment des trucs...
Un gros symbole, de toute façon. Mais pas qu'un symbole, c'est une histoire. C'est une histoire. Patrick.
Alors moi j'ai un film que je vous recommande très chaudement cette semaine, c'est Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Moi j'ai vraiment adoré. Donc film, donc on suit une bande de bras cassés qui vont former une équipe, l'équipe de France de natation synchronisée, qui est plutôt normalement un sport plutôt féminin. Et là c'est voilà une équipe masculine et c'est à mourir de rire. Il y a une ambiance, déjà il y a une bande son années 80 cultissime et puis les acteurs sont tous top. Enfin, moi, c'est des acteurs que j'adore, quoi. Amalric, Anglade, Philippe Catherine, qui est extraordinaire. Il est extraordinaire dans son rôle. Et c'est vraiment très, très bien. Encore une fois, c'est un jeu sur le sport, mais comme toujours, hein, ça se date des premiers Rocky. Mmh. Quand on parle de sport au cinéma, on parle d'humanité, on parle de trajectoires humaines. Et ce film est vraiment top, quoi. Je trouve qu'il est rythmé. Super bande son, puis un super message vraiment sur ces persos un peu losers qui, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un très, très bon moment.
Marius.
Moi, je vais vous conseiller une série qui va bientôt passer sur Arte, qui s'appelle Ad Vitam, série française, qui est... Le pilote est un truc absolument génial à voir. C'est sur une société française, dans un futur proche, qui aurait réussi à vaincre la mort. En gros, ils imaginent tout un univers autour d'un flic et d'une enquête... où les gens vivent en moyenne... Enfin, là, pour le premier épisode, on fête l'anniversaire de la doyenne de l'humanité qui a 186 ans. Tu croises des gens qui se draguent entre eux. T'en as de 110 qui draguent une nana de 70, mais qui a l'air d'avoir 30 ans.
Des traitements, c'est ça ? Enfin, ils ont un système de
traitement par caisson.
Le fantasme transhumaniste.
Voilà. Non, mais c'est passionnant, parce que le premier épisode est d'une densité complètement folle. Et lance un polar tout en créant un univers extrêmement dense, en imaginant les conséquences que ça peut avoir sur la société avec, du coup, en fond, on distingue un référendum sur la fin de la politique de l'enfant unique parce que ça pose un problème de plus avoir de gens qui meurent. La série est vraiment très, très chouette au départ, redevient un peu un simple polar derrière. Mais ça reste vraiment un truc assez exceptionnel pour une série française.
Et tout le monde y accède ou c'est les classes supérieures qui peuvent...
Non, a priori, ça n'a pas l'air d'être trop une question de classe, mais il y a tout un enjeu sur la jeunesse, justement. Parce que l'enquête tourne autour du suicide de gamins qui refusent d'appartenir à ce monde-là où tout le monde vieillit et réclame de l'espace. Et c'est assez intéressant. Enfin,
cool.
Ce qui théorise, en tout cas, est chouette.
Ça fait envie. Un autre truc à venir qui va sortir le 7 novembre en librairie, c'est le livre de Cathy O'Neill, qui s'appelle en français, hein, parce que c'est un livre qui est déjà sorti en anglais il y a quelques temps, « Algorithme, la bombe à retardement ». Cathy O'Neill, c'est une data scientist. C'est donc une nana qui a bossé dans la finance, qui a bossé sur les startups de big data et de choses comme ça, et qui en est ressortie avec cette impression un peu persistante et qui en est ressortie, qui a fait après au Occupy, le mouvement Occupy et tout ça, avec l'impression voilà, que ces algorithmes sont ont un aspect néfaste absolument terrifiant.
Le titre
et notamment avec tout ce qu'elle appelle les boucles de rétroaction. Alors, qu'est-ce que c'est les boucles de rétroaction? C'est par exemple quand finalement un algorithme va prendre des décisions pour des gens qui vont aggraver leur cas, et le fait que ça aggrave leur cas va générer d'autres données qui vont valider et reproduire encore. En fait, il y a une sorte de cercle vicieux de l'algorithme. Ça peut être valable, par exemple, les algorithmes de prédiction de crimes qui sont utilisés aux États-Unis pour envoyer les forces de police là où les crimes sont plus susceptibles d'avoir lieu. Bah, en fait, ça va mécaniquement, vu qu'il se base sur l'antériorité,
ça va
envoyer des flics à des endroits pauvres, hein, généralement, ou avec des gens de la mauvaise couleur. Et donc, ça va en envoyer plus en prison. Donc, c'est des gens qui vont avoir plus de problèmes après, qui vont, donc, en revenant dans le quartier, produire plus de crimes, produire plus de données. Exactement. On est complètement dans la prophétie autoréalisatrice, et elle explique que ça se passe à énormément de niveaux, que ce soit le classement des universités, que ce soit les demandes de prêts, que ce soit la publicité en ligne aussi, ciblée qui va cibler les plus pauvres pour avoir des prêts, etc., et qui va appauvrir les gens, etc. Et tout ça, c'est en marche en ce moment. Et voilà.
Je vais rejoindre Red Dead, moi.
Algorithme, la bombe à retardement de Cathy O'Neill, c'est pareil, le 7 novembre aux éditions des Arènes. Voilà, c'est à lire. Donc merci à tous les trois. Camille, tu travailles à Video Gamer, j'avais oublié de le préciser en début d'émission. À la réalisation, c'est Quentin Bresson de Binge Audio, et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération, sur Binge Audio et sur les internets.